Dans sa lettre, la mère de Florence Deneffle appelle le président François Hollande à l'aide. Lettre restée sans réponse pour le moment, au grand désespoir de la famille et des proches de Florence. Tous remuent ciel et terre pour que le meurtrier présumé soit enfin arrêté par la police guatémaltèque.
Bonsoir. Quand l'auteur présumé d'un crime est à portée de main, quand on connaît son nom, son visage, ses habitudes, mais qu'on ne peut pas l'attraper, c'est ce cauchemar que vit depuis 11 ans, jour pour jour, la mère et les proches de Florence Deneffle. Cette professeure de français de 33 ans avait été enlevée et tuée en 2010 au Guatemala, où elle vivait et travaillait. L'homme soupçonné d'avoir mis fin à ses jours est depuis introuvable. Les enquêteurs locaux n'ont en fait montré aucun empressement pour le retrouver, pour l'interpeller et le questionner. La famille de Florence et la justice française se sont ainsi heurtées toutes ces années à un mur infranchissable, celui du silence, des fins de non-recevoir et de la mauvaise volonté. Existe-t-il encore une chance, une possibilité d'arrêter cet homme que tout accuse? La France s'est-elle suffisamment mobilisée pour que justice soit faite? Pourquoi une telle inertie autour de ce crime? Autant de questions que nous allons passer en revue ce soir avec cet assassinat commis au bout du monde.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Florence Deneffle, une jeune professeure française installée depuis 3 ans au Guatemala et qui, en ce début de printemps 2010, disparaît brutalement de son domicile. Ce 24 mars 2010, aux alentours de 19h, deux femmes, deux employées de l'ambassade de France à Guatemala City, rentrent chez elles dans un quartier résidentiel de la capitale. Elles pénètrent dans une espèce de lotissement protégé, un ensemble de villas où vivent de nombreux expatriés. Ils sont ici en sécurité, dans cette ville qui bat des records de criminalité. Les deux employées sont colocataires et partagent leur habitation avec une troisième française, Florence Deneffle, une professeure de 33 ans. Depuis 2007, celle-ci enseigne l'anglais au lycée français Jules Verne. Les deux amies ont la surprise de trouver le domicile vide. La porte est restée entrouverte. Les clés n'ont pas été emportées. Rien qui ne ressemble vraiment à Florence. La professeure est plutôt du genre sérieux et soigneux. On ne l'imagine pas s'absenter ainsi au mépris des consignes de vigilance rabâchées par l'ambassade de France. Aucun étranger ne s'amuse en effet à sortir seul le soir dans Guatemala City sans avoir prévenu les uns et les autres. Les deux amies sont inquiètes. Elles tentent de joindre Florence sur son portable, sans succès. Elles font le tour de leurs connaissances communes, mais personne n'a vu la jeune prof. Une heure passe et Florence ne se manifeste toujours pas. Il est établi qu'elle devait vers 17h se rendre à un cours de capoeira, discipline sportive qu'elle pratique depuis des années et qui mêle danse acrobatique et arts martiaux. Avant d'être mutée au Guatemala, Florence avait enseigné 2 ans à l'université d'Harare au Zimbabwe, où elle avait monté une école de capoeira. Ce jour-là, elle a annulé au dernier moment sa présence au cours. Elle a expliqué qu'elle avait trop de copies d'élèves à corriger juste avant les derniers conseils de classe et les vacances de Pâques qui arrivent alors à grands pas. La prof n'a manifestement pas eu le temps de corriger ses copies. Celles-ci sont retrouvées dans sa voiture, une Chevrolet stationnée à 250 mètres seulement du domicile. Curieusement, la jeune femme a laissé sur place toutes ses affaires. On retrouve à l'intérieur du véhicule son sac et son portefeuille. Rien n'a été volé. Si la conductrice avait été victime d'une agression, d'un carjacking, comme il s'en produit souvent en ville, son argent ne serait certainement plus là. La police est prévenue. Elle redoute d'avoir affaire à un enlèvement, monnaie courante ici. Des patrouilles sillonnent toute la nuit le quartier, mais sans trouver la moindre trace de la Française. Florence Deneffle a disparu dans un pays dangereux. Un scénario pour le moins inquiétant qui, dans les heures suivantes, va se révéler dramatique. La professeure va être retrouvée morte, assassinée. Après une nuit de recherche dans les rues de Guatemala City, la police locale n'a retrouvé aucune trace de Florence Deneffle. L'ambassade de France, où l'on connaît bien l'enseignante, ne dispose d'aucune information supplémentaire. Jusqu'à cette dramatique nouvelle, ce 25 mars au matin, des ouvriers agricoles de la plantation de café Aguatibia à San José Pinula, dans la campagne avoisinant la capitale, ont découvert un corps Alors qu'ils se rendaient dans les champs, ils ont aperçu la silhouette d'une femme vêtue d'un t-shirt rose foncé et d'une jupe de couleur beige. Elle reposait sur le dos et ne portait pas de chaussures. Étendue au pied d'un arbre, légèrement en contrebas de ce chemin emprunté essentiellement par des journaliers, au kilomètre 28 précisément. Les policiers effectuent les constatations d'usage sans vraiment s'attarder. Personne n'a rien vu de suspect ou entendu quoi que ce soit. Le corps est transporté à la morgue. Il s'agit bien sûr de celui de Florence Deneffle, une ressortissante française portée disparue. La victime ne porte pas de traces de coups ou de blessures apparentes. La mort n'a pas été causée par une arme blanche ou une arme à feu. Elle n'a pas été étranglée. Les légistes concluent que la jeune femme est morte par suffocation, asphyxiée probablement à l'aide d'un sac plastique. La mort de Florence Deneffle est un choc pour sa famille en France, qui va bientôt être prévenue de ce décès, et par ses amis de Guatemala City, l'ambassadrice de France, dont les deux enfants étaient dans la classe de Florence, s'active pour qu'une enquête soit aussitôt déclenchée. Le Quai d'Orsay est prévenu du crime, il fournit aussitôt une assistance psychologique et dépêche une équipe d'enquêteurs, deux policiers attachés de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Costa Rica, un pays voisin, sont envoyés sur place. Ces enquêteurs chevronnés, rompus aux méthodes de police judiciaire, aimeraient bien être totalement associés aux investigations, mais ils ne vont avoir qu'un rôle d'observateur, pas le choix. Ils doivent se contenter de ce que leur communiquent leurs homologues guatémaltèques, c'est-à-dire quasiment rien. Il s'avère que l'enquête locale est conduite à la légère. Aucun interrogatoire digne de ce nom n'est mené. Le voisinage n'a pas été entendu. Les prélèvements d'empreintes et d'ADN n'ont pas été effectués. La voiture de la victime est restée sur place sans être ouverte ou vérifiée. Même l'autopsie paraît défaillante. Les proches de Florence Deneffle n'ont aucune certitude sur les conclusions des légistes. L'heure du décès, établie autour de 3 heures du matin le 25 mars, ne serait pas certaine. Autant dire que les investigations démarrent dans un parfait désordre. Un homme va apparaître dans le paysage de l'enquête, un proche de Florence Deneffle, son ex-petite amie disparue alors qu'on venait de retrouver le corps de la Française. Il va faire figure de témoin principal puis de suspect numéro 1. Malgré des investigations qui ne semblent avoir jamais vraiment démarré, la police de Guatemala City a même mis son enquête entre parenthèses lors des vacances de Pâques. Le nom et le visage d'un homme apparaissent. Il s'agit d'un certain Christian Benjamin Martinez Castillo, 31 ans. Il est employé dans une société d'informatique. C'était l'ex-petit ami de l'enseignante française. Depuis le crime, Castillo demeure introuvable. Impossible de savoir à ce stade du dossier si cet homme doit être considéré comme témoin, comme victime, il aurait pu lui aussi être enlevé et peut-être tué, comme Florence, ou comme l'auteur du crime, Étienne Nicolo. L'avocat de la famille Deneffle le présente alors comme un personnage central dans cette affaire, car il a disparu au moment même de l'assassinat. Cet homme n'a jamais vécu avec la Française, il a fréquenté Florence pendant une dizaine de mois, puis elle a décidé de rompre au mois de février 2010, un mois seulement avant qu'on ne la retrouve morte. À ses proches et à sa mère, elle avait raconté que cet ex s'était montré pressant après la rupture. Castillo venait souvent frapper à sa porte. Elle s'était un jour disputée avec lui, le ton était monté et le prétendant était reparti en colère. La police tergiverse. Deux mois après le crime, au mois de mai, un mandat d'arrêt est lancé contre Martinez Castillo. En dépit de l'identification d'un suspect, aucune véritable recherche n'est entreprise pour le localiser. Pour les autorités du Guatemala, Christian Benjamin Martinez Castillo est tout simplement introuvable. La mère de Florence Deneffle trouve alors aberrant que la police du Guatemala demeure à ce point inerte. Lors d'une conférence de presse, elle déclare « Nous voulons que le coupable soit arrêté, jugé et puni » et que soit rendue sa dignité à ma fille. Le 5 août 2010, la famille dépose une plainte pour enlèvement et meurtre auprès du parquet de Perpignan, procédure qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction. Une enquête en quelque sorte parallèle à celle des autorités guatémaltèques. Des investigations, il faut bien le dire, soumises à la bonne volonté et à la coopération du pays où s'est déroulé le crime. 9 mois après la tragédie, la mère de Florence rencontre la ministre des Affaires étrangère de l'époque, Michèle Alliot-Marty. Celle-ci l'assure que tout sera entrepris pour que le dossier avance. Les mois et les années vont passer sans que le suspect numéro 1 ne soit jamais entendu ou interpellé. Il apparaît que cet homme a des accointances au sein du crime organisé. Il serait protégé par un gang auquel les autorités du Guatemala ne s'attaquent pas. Ce jeudi 24 mars 2011, un an après la mort de sa fille, Edwige L'Aigle de Nèfle s'envole pour le Guatemala. Voyage destiné à relancer coûte que coûte une enquête qui sommeille. La mère de Florence va profiter de ce déplacement pour rencontrer les représentants de l'association Sobrevivientes qui s'occupe des victimes et à travers laquelle elle a pu se constituer partie civile. Pour avoir aussi un entretien avec le ministre de l'Intérieur guatémaltèque et lancer officiellement un avis de recherche, avec à la clé une récompense de 30 000 quetzals, un peu plus de 3 000 euros. Pour toute information permettant l'arrestation de Christian Benjamin Martinez Castillo. Sa photo est diffusée alors dans tous les commissariats de la ville. On retrouve l'avis de recherche placardé dans les bâtiments administratifs. Il est possible que le jeune informaticien soit caché par sa propre famille. Famille qui n'a signalé sa disparition qu'une semaine après, sans jamais montrer de signe d'inquiétude. Au fil des mois, il apparaît que Martinez Castillo, le suspect numéro 1, ferait partie d'un groupe de maras, ces gangs armés ultra-puissants installés en Amérique centrale et qui règnent sur les trafics de stupéfiants, le racket et la prostitution. Le fait que le jeune homme soit affilié à l'une de ces organisations expliquerait qu'il soit devenu intouchable. La police du Guatemala est toujours réticente à lancer des enquêtes en profondeur sur ce genre d'organisation mafieuse ultra-violente. Un scénario est alors avancé. Il se pourrait que l'ancien petit ami, furieux d'être plaqué, ait organisé un rapt dans l'objectif d'obtenir une rançon. L'enlèvement aurait mal tourné et la Française aurait finalement été tuée. Deux mandats d'arrêt internationaux lancés par la France ne parviendront pas à changer la donne. L'assassin présumé de Florence de Nèfle va continuer à échapper à la police du Guatemala et à la justice française. La mère de Florence de Nèfle va continuer à frapper à toutes les portes pour faire avancer l'enquête. Élysée, ministère de la Justice et de l'Intérieur, sans résultat probant, mais avec une éclaircie, un procès en France, en l'absence de l'accusé, n'est désormais plus exclu. Le juge de Perpignan, qui instruit côté français le dossier Florence de Nèfle, arrive sans doute aujourd'hui au bout de son enquête. Force est de constater qu'au cours de toutes ces années, la justice n'a obtenu que des informations disparates et partielles en provenance du Guatemala. Le juge d'instruction a pu toutefois se faire communiquer l'intégralité de la procédure qui a dû être traduite. Très récemment, il a également demandé la transmission des tout derniers éléments réactualisés, notamment ceux concernant les recherches du suspect numéro 1, introuvable depuis la mort de l'enseignante. Maître Philippe Capsier, l'un des avocats de la famille de la victime avec maître Étienne Nicolo, indique dans le journal L'Indépendant « On va maintenant demander la clôture de l'instruction pour que la justice puisse organiser le procès de ce suspect, même en son absence devant une cour d'assises, un procès ». En l'absence de l'intéressé, Christian Benjamin Martinez Castillo, c'est l'ancienne procédure de contumace. Ce procès pourrait donc se tenir dans plusieurs mois devant les assises des Pyrénées-Orientales. Seul moyen pour la famille de Florence d'obtenir justice. En 2017, les proches de l'enseignante du lycée Jules Verne de Guatemala City avaient lancé une pétition en ligne et obtenu quelques 150 000 signatures. Pétition adressée au président Emmanuel Macron et au ministre de la Justice. Les signataires n'avaient alors reçu aucune réponse, au grand regret de la mère de Florence, craignant alors que ce dossier ne soit plus une priorité pour les autorités françaises et pourrait être oublié.